Vous écoutez RTL.
Bonjour Christelle.
Bonjour Christelle. Bonjour.
Je ne sais pas ce que vous en dites, moi j'observe Thomas Hugues depuis quelques temps et je me dis qu'il aurait peut-être besoin d'un peu d'intelligence artificielle pour booster ses capacités.
Cette émission.
Ah ouais, c'est prometteur.
Hein. Vous savez, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on peut mieux dormir.
Voilà, mais
bientôt,
bien
on n'ira plus faire ses courses
sortez
au supermarché. On pourra conduire, on conduira plus sa voiture d'ailleurs, elle se débrouillera. Peut-être qu'elle écrira
voiture,
des émissions toute seule.
Bon
allez, c'est les promesses d'un nouveau monde ça, l'intelligence artificielle, et ce sera vers 14h30 avec un Thomas toujours en forme,
ouais,
c'est désespérant.
Bien. Et allez, tout de suite, on voyage dans le temps sur RTL, direction la préhistoire.
Jusqu'à 15h, Sidonie Bonnec.
Ignorant le mal.
Thomas Hugues.
Ne craignons que la nuit.
RTL.
C'est ici que vivent nos ancêtres, les premiers hommes.
Bien, on va faire l'appel.
Nous sommes à l'âge de Pierre.
Pierre.
Présent.
Pierre.
Présent.
Pierre.
Présente.
Pierre.
Présente.
Ah, Pierre.
La curiosité est un vilain défaut.
Évidemment, encore absent celui-là. J'imagine que Pierre n'est pas là non plus. Comme par hasard.
Voilà, les puristes auront reconnu un extrait du film R, signé d'Alain Chabat.
C'était pratique à l'époque de choisir un prénom, Pierre, mais pourquoi
simple.
On s'ennuie, franchement.
Voilà, appelez-moi Pierre. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une heure de découverte, de secrets, de révélations, et vous l'avez compris, de bonne humeur.
Bonjour Thomas, salut, bonjour les curieux, vous le savez, notre curiosité sans limite. Science, nature, des grands destins, des sagas musicales, la vie quotidienne aussi, et bien sûr l'histoire nous passionne.
Et aujourd'hui donc la préhistoire. Bonjour Cyrielle Lemoine-Tolba.
Bonjour, heureuse de vous retrouver.
Ouais, ravie nous aussi.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine Ça m'intéresse Histoire, et donc avec un dossier passionnant publié en partenariat avec RTL, vous posez cette question qui est à la une, qui étaient les premiers Français? C'est simple, mais la réponse est assez vertigineuse. Bon, déjà, il y a une facilité de langage, parce que ce n'était pas encore la France.
Exactement,
évidemment.
C'était pas encore la France, on n'en parlait pas. Le mot apparaît bien plus tard, donc là, on va nous se concentrer sur le paléolithique. Mmh. Autour de moins de 100 000, on va arriver, nous, aux portes du néolithique, moins 4000.
Oui. Donc, c'est un grand pan de l'histoire.
C'est un grand pan de l'histoire. Et on ne parle toujours pas de France. Nous, ça nous a intéressé, puisque c'était un peu une pirouette de se demander qui était là en premier. En fait, la réponse est vertigineuse, parce qu'il y a toujours quelqu'un avant quelqu'un. Mmh. Donc, on est allé voir ce qui se passait chez nos ancêtres néandertaliens,
voilà,
et
avec
Homo sapiens.
Avec un premier roi de France.
Exactement.
Et si vous nous regardez sur RTL.fr, je mets des guillemets, qui était Néandertal.
Exact. Alors, pourquoi on l'appelait roi de France? C'est un peu pour par provoque, parce qu'on a voulu réhabiliter ce bonhomme qui a été pas mal malmené au moment de sa découverte au 19e siècle, au milieu du 19e siècle. On l'a décrit comme un lourdeau, bête, pas fini. En fait, il se trouve que depuis des dizaines d'années, les scientifiques décrivent un être beaucoup plus évolué que cela. Et surtout, pendant des centaines de milliers d'années, il a été seul sur le territoire français. C'était le roi de France.
Et combien d'hommes et de femmes de Néandertal ont peuplé ce qu'allait devenir la France?
Alors,
il y a
environ 15 000 générations d'hommes de Néandertal qui se sont succédés, ouais, pardon, sur le sol français. Pour donner un titre de comparaison, nous, les Homo sapiens, on a 2000 générations.
Ah oui, donc ils ont bien bossé.
Ils ont été là très longtemps.
Ressemblait à quoi, Cyrielle Lemoine-Tolba, cette France de Néandertal, si on en dessine les contours?
Alors, elle était, il faisait très froid, puisque c'est le théâtre de 4 violentes glaciations. Entre moins 125 000 et moins 21 000, c'est le point où ça culmine. Donc, effectivement, si on va au nord de Clermont-Ferrand, le paysage, c'est donc une steppe sibérienne, avec donc pas d'arbres, des herbes très rases. Voilà, il fait froid. Néandertal, lui, il est un peu comme nous. Il préfère vivre plutôt en Provence, dans la vallée du Rhône, dans le Périgord. Le Languedoc.
Et est-ce que sa constitution, si on décrit l'homme ou la femme de Néandertal, ça le préparait justement à ces glaciations et à y résister?
Il est complètement taillé pour affronter les grands froids. Il est plutôt trapu, très costaud.
Poilu?
Poilu, une masse musculaire importante. Il a un front, il n'a pas vraiment de front, un front fuyant avec un gros bourrelet pour se protéger aussi les yeux. Il est vraiment taillé pour...
Et il vit avec des peaux de bête, enfin, on sait s'il s'habillait, parce qu'il s'habillait.
Froid,
froid, oui, naturellement, mais une doudoune. Mais
exactement,
bon,
Non. Mais ils n'avaient pas de synthétique, que du naturel. Donc c'est un pro de la chasse pour manger et aussi se vêtir et habiter.
Alors c'est la vie quotidienne à l'époque de la préhistoire qu'on découvre grâce à vous et grâce au magazine Ça m'intéresse Histoire, Cyrielle Lemoine-Tolba, avec d'abord ce constat, ce sont des nomades. Les Français, hein, encore une fois, je mets des guillemets de l'époque.
Ouais. Néandertal est un nomade, il vit en clan d'une quarantaine de personnes sur un territoire relativement vaste, qui équivaut à 200 km². Donc sur ce territoire-là, il va se déplacer, il va établir des camps d'hiver, des camps d'été, des bivouacs. Mmh. Voilà, c'est un nomade solidaire.
Et comme ce nomade solidaire, ces hommes et ces femmes de Néandertal ne se brossaient pas les dents, c'est une chance pour nous, peut-être pas pour eux à l'époque, mais en tout cas aujourd'hui, on peut analyser leur tartre et deviner et savoir quel était leur bol alimentaire, ce qu'ils mangeaient finalement.
Exactement.
Grâce au tartre,
ouais. À la plaque dentaire, on peut trouver des fossiles, en fait leurs restes, le reste de leurs aliments. On peut en déduire ce qu'ils mangeaient notamment en Belgique, sur des dents de Néandertal. On a pu en déduire qu'ils se nourrissaient de rhinocéros laineux et de mouflons. On sait aussi, par ailleurs, qu'il pouvait manger. À 80%, c'est un viandard, Néandertal. Il a 80% de son alimentation provient de la chasse, du gibier. Les 20% de restants, ça peut être des pois, des lentilles, des dattes. On a retrouvé aussi des rhizomes, donc c'est les tiges sous l'eau de nénuphar. Et on a retrouvé aussi des traces d'amidon. Et ça, c'est très intéressant, puisqu'on pensait qu'il grillait sa nourriture, et l'amidon, ça veut dire qu'il pouvait cuire ses légumes. On sait même qu'il inventait le sachet-cuisson.
Le sachet-cuisson,
ouais.
C'est-à-dire,
on le sait. En fait, on a retrouvé sur un site en Catalogne, il me semble, on a retrouvé un bassin creusé d'une quarantaine de centimètres de profondeur. On a retrouvé à côté des pierres à chauffer et des traces de foyer. Donc on pense qu'il prenait des pierres, il les chauffait sur le foyer, au feu, il les plongeait dans l'eau chaude pour maintenir l'eau à température chaude, et il mettait ses aliments dans des panses d'animaux qui plongeaient dans l'eau.
Formidable. Voilà.
Alors, dans cette émission, on aime bien chasser les idées reçues. Il y en a une qui dit que c'est Sapiens, notre ancêtre le plus proche, qui a chassé, peut-être exterminé Néandertal. On va voir si c'est vrai dans une minute sur RTL. Restez avec nous.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Sachez pour votre information qu'on n'accepte plus les hommes de Néandertal.
RTL.
Croyez-le ou non, celui qui a la meilleure note est Fred Pierrefeu.
Cet énorme chimpanzé ?
Non, l'énorme chimpanzé a 65.
La curiosité est un vilain défaut.
Les pierres à feu étaient-ils les premiers Français? C'est la question qu'on se pose. Non, en fait, qui étaient les premiers Français? Nos ancêtres, on répond à cette question passionnante avec la journaliste Cyrielle Lemoine-Tolba, rédactrice en chef adjointe du magazine Ça m'intéresse, Histoire. Alors après Néandertal, c'est donc Sapiens qui reprend le flambeau et le pouvoir en Europe, et donc sur le futur territoire français. À partir de quand il s'installe et d'où vient-il, ce bonhomme?
Alors, Homo sapiens, c'est nous, c'est l'homme anatomiquement moderne. Il vient d'Afrique et à la faveur d'un réchauffement climatique, il va quitter l'Afrique, suivre le gibier et aussi suivre son envie de découverte. Et vers moins 40 000, il apparaît en Europe.
Alors, on dit souvent, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, que c'est Sapiens qui a fait la peau de Néandertal il y a 30 000 ans? Parce que Néandertal a vraiment disparu presque du jour au lendemain.
Exactement, ouais. En moins 28 000, il n'y a plus de Néandertal en France. Il y en a moins 24 000, il y en a un petit peu en Espagne. Alors on pense souvent qu'effectivement, en arrivant, Homo sapiens, assoiffé de sang, s'est déchaîné sur son rival Néandertal. En fait, c'est peu probable, il y a peu de traces archéologiques d'un massacre. Il y a d'autres hypothèses, on pense à une épidémie, mais en fait, les clans de Néandertal étaient tellement éparpillés que c'est très peu probable aussi qu'une épidémie ait pu éclater. On pense aussi à un réchauffement climatique qui aurait raréfié leur nourriture, sauf qu'on sait aussi que Néandertal faisait feu de tout bois et qu'ils pouvaient très bien manger des coquillages, même du dauphin ou du phoque.
Et on dit même, parce qu'il y a une exposition en ce moment à Paris au Musée de l'Homme sur Néandertal, et on dit qu'il paraît qu'on a tous un peu de Néandertal en nous parce que Homo sapiens et Néandertal auraient eu l'occasion de se reproduire.
Exactement.
Ils ont fricoté.
Ça dépend d'où on vient. En Afrique, ils ne se sont jamais rencontrés, donc voilà. Mais effectivement, ils auraient fricoté, et donc il y a une part de génétique, on peut trouver une trace de Néandertal en nous. En fait, ce qui est plus probable, c'est que Néandertal s'était trop dispersé, puisqu'il préférait se disperser, fuir plutôt que d'affronter des rivaux, et que du coup, les clans étaient devenus trop peu nombreux pour la reproduction, et ils sont morts naturellement.
Alors, on va s'intéresser maintenant à Homo sapiens, comme vous dites, notre ancêtre le plus proche. Il y a 20 000 ans, qu'est-ce qu'il crée ? C'est un inventeur, Homo sapiens. Qu'est-ce qu'il crée pour compenser son manque de puissance, justement, si on le compare à Néandertal ?
Exactement. Alors, Néandertal, il était super fort à la chasse. Il pouvait bouger son bras dans tous les sens. Et nous, je vous mets au défi d'essayer de lancer votre bras le plus loin possible dans votre dos. Ça bloque, ça coince. Et ça, c'est à cause de notre articulation au niveau de l'épaule. Mmh. Donc, sapiens, il est beaucoup moins fort à la chasse et pour être précis, il doit se rapprocher dangereusement de sa proie. Donc pour compenser ça, il a dû activer ses méninges et inventer ce qu'on appelle un propulseur. C'est une baguette de bois dans laquelle il vient ficher, il y a une encoche pour ficher sa sagaie. En fait, quand il lance sa sagaie, avec son épaule, donc il la lance fort, il la lance beaucoup plus loin. On estime que ça augmente de 3 fois la vitesse d'éjection du projectile.
Alors ici, dans la curiosité, on adore raconter des histoires et ça on le tient d'Homo sapiens. Pourquoi il adorait raconter des histoires? C'est lui qui a inventé la narration.
En tout cas, les premières traces nous viennent de lui, effectivement, puisque en France, on a beaucoup de chefs-d'œuvre de l'art préhistorique, la grotte Chauvet, qui date de l'Aurignacien, entre moins 40 000 et moins 30 000. Beaucoup plus tard, moins 16 000, on est à Lascaux. Et là, on voit apparaître sur les murs des formidables chorégraphies d'animaux avec des bisons, des chevaux, des félins. Et tous ces signes-là, on les retrouve aussi ailleurs en Europe. On va les retrouver en Espagne, on va les retrouver en Roumanie. Et donc on pense qu'il partageait une même vision du monde au-delà des frontières qui n'existaient pas à l'époque, au-delà des distances plutôt, et qu'il se serait mis, grâce à ces signes, à créer les premiers réseaux sociaux.
Oui, c'est ça, la socialisation, la sociabilité, je ne sais pas quel terme employer, c'est aussi une force de nos ancêtres.
Oui, complètement, oui.
Leur capacité à quoi ? À créer du lien ?
À créer du lien, à partager des mythes probablement, puisqu'on peut penser que ces dessins renvoient à des mythes.
Mais donc, pourquoi ça les rend forts ? Parce que du coup, ils sont plus solidaires,
ils ont un
destin commun,
exactement.
C'est ça ?
Exactement. C'est plus seulement des machines biologiques, c'est aussi des êtres pensants. Donc, ils peuvent aussi bâtir, programmer des migrations, enfin, des rencontres et des mythes. Et effectivement, l'union faisant la force, c'est une véritable machine à conquérir le monde.
Et donc ce territoire français, la préhistoire, pardon, c'est aussi un lieu de grande migration. À partir de quelle époque et quels sont les peuples qui vont se croiser ?
Alors on pense, on va faire intervenir les paléogénéticiens, ceux qui vont scruter les gènes de nos ancêtres. Entre moins 40 000 et moins 14 000, les gènes de nos ancêtres ne bougent pas beaucoup. C'est des homo sapiens, des chasseurs-cueilleurs. Mmh. Et à partir de moins 14 000, ça bouge un peu, mais la grande migration, elle va apparaître au 6e millénaire, moins 5800. Il y a des nouveaux homo sapiens qui arrivent et ils sont porteurs d'une révolution qui est l'agriculture.
Ils s'arrêtent de
ils
bouger,
s'arrêtent.
Ils deviennent
de
sédentaires,
bouger,
c'est
complètement.
Ça ? Qu'est-ce que ça change ? Alors c'est... Par exemple, pour les femmes, pour la natalité, qu'est-ce que ça
pour
change ?
Pour la natalité, ça change énormément, puisque quand vous êtes tout le temps sur la route, que vous êtes nomade, vous êtes moins fertile. Donc ça bloque la natalité. En revanche, quand vous vous installez et que vous donnez du lait de vache aussi à vos enfants, vous les sevrez plus vite et vous pouvez faire des enfants beaucoup plus... des naissances plus rapprochées. Donc
allez,
la natalité augmente.
Mais oui, on a encore plein de questions à vous poser, Cyrielle Lemoine Tolba, sur cette vie quotidienne à la préhistoire, sur ce qui allait devenir la France. Nos ancêtres enterraient-ils leurs morts ? Avaient-ils des esclaves ? Se faisaient-ils la guerre ? Vous allez voir qu'il y a 4 ou 5 000 ans, la vie n'était pas un long fleuve tranquille.
RTL.
De 14h à 15h,
la curiosité est un vilain défaut.
Avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues.
La curiosité qui vous emmène à l'époque préhistorique grâce à nos confrères du magazine Ça m'intéresse Histoire, Cyrielle Lemoine-Tolba, sur le territoire qu'allait devenir la France, on se battait aussi, on trouve plusieurs traces de violence, par exemple sur le site d'Ackenheim en Alsace, qu'ont découvert les archéologues.
Alors là, c'est une véritable scène de crime. On va enfiler les combinaisons blanches, c'est digne d'un thriller. En fait, ils ont retrouvé c'est un village du 5e millénaire avant Jésus-Christ, qui est entouré déjà d'un fossé creusé en V, ce qui veut dire qu'on cherchait quand même à se défendre d'attaques. Et il y a 300 silos à grains, donc ça tout à fait normal. Et dans un de ces silos à grains, on a retrouvé... 6 cadavres, 6 individus enterrés, donc il y a 5 adultes et un adolescent. Et puis on a retrouvé aussi, alors ces cadavres, ils ne sont pas en bon état du tout, puisqu'il y a des fractures au niveau du crâne, des jambes, des mains, des côtes.
Donc voilà. On écarte la mort naturelle, c'est ça ?
Complètement, impossible. Et on va retrouver en plus des détails plus stupéfiants, il y a 4 bras gauches. trois qui appartiennent à des adultes et un à un adolescent. Donc en tout, 10 personnes enterrées ici.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils dépeçaient, ils ramenaient des trophées, voilà. On peut imaginer ça?
En fait, on peut imaginer, c'est les archéologues de l'INRAP, l'Institut d'archéologie préventive, l'Institut français, qui ont imaginé un scénario. Donc on imagine que dans une forêt attenante, le clan d'Akenheim va rencontrer un clan étranger. Ça va mal se passer. Il y en a 6 qui sont faits prisonniers et 4 qui sont immédiatement tués. On va couper leur bras gauche pour la rapporter en trophée. Et alors les 6 autres, qu'advient-il d'eux? Ils ne sont pas morts de mort naturelle, donc probablement ils ont été torturés puis jetés dans le silo.
Est-ce qu'on peut imaginer aussi que nos ancêtres étaient cannibales?
Oui, alors il y a sur certains, alors c'est des traces de cannibalisme, il y en a un peu sur une longue période, de moins 15 000 à moins 4 000, on peut en trouver. Dans certains sites, on va trouver sur des crânes des traces de stries, donc ce qui veut dire qu'on a découpé de la chair peu après le décès. Donc effectivement, nos ancêtres ont pu être cannibales à l'occasion.
C'est nourrissant la chair humaine?
Alors bonne question, quelqu'un a cherché la réponse. Voilà, donc,
vive les chercheurs.
Voilà, vive les chercheurs. On estime que c'est la viande humaine équivaut, enfin un corps humain, c'est environ 125 000 calories. C'est 3 fois moins nourrissant que de la viande de castor par exemple. Bon, ça ne vaut pas trop le
coup. On ne va pas s'y remettre.
Ça ne vaut pas le coup, on ne va pas s'y remettre tout de suite. Grâce à vous, Cyrielle Lemoigne-Tolbin, on visite la France de la préhistoire. Nous voilà sur le site de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Qu'est-ce qu'on peut y trouver?
Alors, sur le site de Saint-Paul-Trois-Châteaux, on va trouver une fosse, une sépulture dans laquelle une femme, on pense une femme importante, est enterrée, puisqu'elle est enterrée en position fœtale. On a pris soin de l'enterrer bien comme il faut, avec un vase au niveau de la tête. Et à côté d'elle, il y a deux autres cadavres qui sont jetés un peu pêle-mêle, enfin, sans cérémonie.
Qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'est-ce que les archéologues déduisent de cette scène?
Alors, probablement que la femme était très importante et que les deux autres étaient ses suivantes, donc des esclaves qu'on a enterré avec elle, qu'on a exécuté au moment de sa mort.
Donc il y avait déjà des esclaves à l'époque de Néandertal, c'est ce dont...
C'est pas Néandertal,
c'est Sapiens,
là on est...
Ah oui, c'est Sapiens,
Sapiens,
d'accord.
Ouais. Mais c'est nous, et ouais.
Ça a démarré avec Sapiens.
Ça démarre pas tout à fait avec Sapiens, ça démarre avec l'invention de l'agriculture. Mmh. Voilà. Donc on pense que l'agriculture a engendré des hiérarchies entre les humains, et donc la notion de propriété, et aussi ça a engendré les classes de maîtres et d'esclaves.
C'est passionnant de savoir comment vivaient cet homme et ces femmes préhistoriques, et notamment que Néandertal pouvait faire preuve aussi de solidarité. Ça, c'est une sacrée valeur. Donc, comment on a pu déterminer ça?
Alors, on a découvert à plusieurs endroits des cadavres qui portent des traces de blessures qui ont cicatrisé. Ça veut dire que la personne blessée n'a pas été exécutée ou laissée pour morte. On l'a soignée et elle s'est soignée. Elle a vécu longtemps après avoir été blessée. Donc,
est-ce que ça peut s'expliquer par la démographie, la faiblesse,
oui,
de la population à l'époque sur le territoire français?
Oui. Alors effectivement, c'était des clans assez restreints, une quarantaine de personnes. Ils vivaient loin les uns des autres. Donc, dans un environnement très hostile, il faut penser que les températures, il y avait 5 degrés de moins en moyenne qu'aujourd'hui. L'ambiance était beaucoup plus fraîche, donc la solidarité était nécessaire.
Qu'est-ce qu'on sait chez Néandertal ou Homo sapiens sur la répartition des tâches entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'il y avait une parité?
Les hommes prenaient les femmes par les cheveux et les tiraient, voilà.
C'est un cliché, hein. Merci Dutronc d'ailleurs, je crois que sur un...
Et nous, on leur cassait les noix tous les jours.
Ah oui, ça c'est pas faux ça. Pardon, excusez-moi.
Bon, en fait, on n'en sait rien, je vais décevoir beaucoup de gens. On sait qu'il y avait probablement... Enfin, il y avait un partage des tâches, il y avait des gens qui faisaient de la couture, puisqu'on a trouvé des restes d'aiguilles pour coudre donc des vêtements. Ils faisaient aussi donc des peintures, de la sculpture, donc probablement il y avait une division des tâches, mais qui faisait quoi, c'est impossible de le savoir.
La curiosité continue avec cette question importante, fondamentale pour la survie de l'espèce. Comment se formaient les couples à l'époque préhistorique? Est-ce qu'on draguait? Est-ce qu'il y avait des sites de rencontres? Et puis juste après sur
RTL,
on sait jamais, on découvre comment l'intelligence artificielle va changer nos vies.
RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, de 14h à 15h.
La curiosité est un vilain défaut.
Toujours avec Cyrielle Lemoigne-Tolbin, rédactrice en chef adjointe du magazine Ça m'intéresse, histoire, depuis 14h sur RTL. On est de retour à l'ère préhistorique pour observer la vie quotidienne de nos ancêtres néandertal et sapiens sur ce qui allait devenir le territoire français. On n'a pas encore parlé de couple, de sexualité. Était-il monogame? Alors évidemment, c'est difficile, la question, elle vaut sur des centaines ou des dizaines de milliers d'années. La réponse,
on
c'est
a,
quoi
on a, une, on a quelques indices. On pense que la monogamie est apparue assez tôt. Tout simple. Alors ça ne veut pas dire qu'ils étaient monogames, qu'ils ne changeaient pas de partenaire.
Ou qu'ils étaient fidèles.
Cas, voilà.
Évidemment.
Quand ils avaient une partenaire ou un partenaire, ils restaient. C'était plus facile. Le bébé humain étant pas tout de suite autonome, c'est plus facile d'en élever, on pense, à deux. Et donc, probablement que les couples restaient fixes pour 3 ans et qu'après, ils se séparaient. Mais oui, il y avait une forme de monogamie.
On parlait de la violence qui pouvait exister, évidemment, à cette époque. Les femmes enlevées dans le clan ennemi ou dans le clan voisin, est-ce qu'on en a des traces de ça? Est-ce qu'on peut
le déduire grâce aux paléogénéticiens, donc ceux qui scrutent les gènes de nos ancêtres. Dans la grotte d'El Cidrón en Espagne, on a retrouvé des Néandertaliens, notamment 3 adultes hommes et 3 adultes femmes. Chez les hommes, donc on a scruté le chromosome Y qui est transmis du père au fils. Et alors, ces chromosomes, enfin ces gènes sont relativement proches. Donc on pense que les hommes étaient apparentés, enfin en tout cas ne venaient pas de régions très très éloignées. Et en revanche, pour les femmes, le chromosome, l'ADN mitochondrial, donc celui qui est transmis par la mère, on va trouver beaucoup de variantes. Donc on pense que les hommes allaient chercher les femmes ou que les femmes venaient de loin. En tout cas, c'est un indice. Effectivement, il y avait des échanges de femmes, probablement.
Bon ben voilà, c'est une partie de la réponse. Merci beaucoup, Cyrielle Lemoigne-Tolma. Qui étaient les premiers Français? Voilà, c'est le titre de cet article, c'est à lire dans Ça m'intéresse Histoire, en partenariat avec RTL. À bientôt.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.